Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous savoir très nombreux à l'écoute de votre émission Patara, le débat politique de Radio Ndeke Luka. Vous nous écoutez à Boire, Bozoum, Berberati, Bossangwa, Boali, Bambari et surtout en France, en Belgique, en Chine, aux États-Unis d'Amérique et en Afrique tout entière. Bref, partout dans le monde, vous êtes toujours là. La libération des deux policiers pris en otage durant un mois par le chef rebelle Sidiki Abbas dans l'Ampindi est le thème de notre débat de ce jour. En effet, le gouvernement et la MINUSCA ont lancé une opération militaire dénommée à la Londo contre les positions des troisières dans les préfectures de la Mambéré et de l'Ampindi. Opération qui, selon les initiateurs, a connu un succès et a permis de détruire certaines bases de ces groupes armés. C'est dans ce sillage que deux policiers et un soldat des forces armées centrafricaines FACA ont été pris en otage par les troisières. Ça ne reste pas là. Le mouvement Retour, Réclamation et Réhabilitation s'est opposé aux opérations d'enregistrement des électeurs, exigeant du gouvernement une réponse favorable à ces revendications. Lesquelles revendications visent donc à reconnaître 8 des officiers des troisières dans l'armée nationale et libérer les éléments arrêtés par les forces de l'ordre. Malgré la pression des autorités, il a fallu des négociations d'une mission conjointe gouvernement, Assemblée nationale et garant de l'accord de paix du 6 février pour que ces deux policiers kidnappés soient libérés mardi dernier. Cependant, le soldat des forces armées centrafricaines FACA, lui, est toujours maintenu par Abbas Sidiki, le patron des troisières, de donner enfin son crédit pour la reprise du processus électoral dans cette partie de l'Ampindi. Question, les troisières défient-ils le gouvernement et la MINUSCA? Le gouvernement est-il dépassé par les cours des événements? Peut-on parler du succès de l'opération militaire à la Londo contre les troisières? Les leaders des groupes armés considéré comme étranger, à savoir Sidiki Abbas, Ali Darassa et Al-Khatim, sont-ils dans le but de déstabiliser la République centrafricaine? Pensez-vous que le processus électoral en cours va bien aboutir dans les zones encore sous contrôle des groupes armés? Ces interrogations vont nous guider tout au long de ce débat politique. Eh bien, pour en débattre, nous recevons autour de cette table Monsieur Martin Ziguilé, député de Bukaranga 2 et président du mouvement de libération du peuple centrafricain MLPC, allié de Faustin Alcantois Dira. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Mouammar Bengobossin, conseiller en communication de l'ancien chef d'État François Bozizé. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Jean-Symphorien Mapenzi, premier vice-président de l'Assemblée nationale et cadre du mouvement qui est réuni du président Touadéra. Monsieur, bonjour.
Bonjour et bonjour aux éternels de Kelou.
Et Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, membre de la société civile. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Au micro, je suis Armando Nguindi. Tout de suite, nous lançons le débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndeke Luka.
Voilà, ouvrons le débat avec vous, Monsieur Martin Ziguilé. Comment s'est-elle déroulée, la mission de négociation conjointe gouvernement, Assemblée nationale et garant de l'accord de paix avec Sidiki Abbas?
Je vous remercie. Je voudrais d'abord vous donner une image qui m'est restée dans la tête. Lorsque le mardi, à 11h, l'état-major des 3h nous a remis les deux otages policiers de Kui, nous sommes revenus à la base de la MINUSCA, à 3 km de la ville, et puis nous sommes allés par hélicoptère à Bang. Et Bang, c'était le poste d'affectation de ces policiers. Quand on est arrivé, la population avait fait deux cercles dans lesquels les deux étaient debout pour se présenter à la foule. Et le jeune policier s'est mis à pleurer. Il pleurait. Quand je l'ai vu, j'ai failli également verser des larmes. C'est-à-dire l'émotion qui était la sienne. Parce qu'il ne s'imaginait pas se retrouver vivant et devant l'endroit où il a commencé son travail avant d'être kidnappé. Cette image-là me hante. Et je remercie Dieu. Je remercie également tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à rendre leur liberté à ces deux jeunes-là qui sont en début de carrière. Comment les choses se sont déroulées? Vous savez que suite aux incidents qui ont eu lieu lors de la mise en place de l'USMS à Boire, c'est dit qu'il s'est retiré dans cette zone-là de Luampéné, de la Nanamambéré, zone contiguë, et a déclenché les hostilités. Et il y a eu donc l'opération à la Londo qui a été lancée, et il y a eu également des affrontements avec les forces armées centrafricaines à Santoua, et conséquence de tout cela, donc il y a eu ces opérations-là, et Sidiki a donné l'ordre, non seulement de ne pas faire de recensement, mais qu'il s'en prendrait aux populations qui violeraient cette interdiction. Et donc, nous sommes allés à une mission du gouvernement, en tant qu'Assemblée nationale, c'était une mission du gouvernement, avec 4 députés de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, c'est le président Mapenzi, ici présent, qui m'a demandé de participer à cette mission, que j'ai acceptée volontiers. Et il y avait également l'ANE. Et l'objectif de la mission, c'est d'aller faire le constat de la situation à Kouy et dans ses environs. Faire le constat pour voir pour quelles raisons ce recensement n'a pas pu être lancé. Et dans un deuxième temps, recueillir les solutions possibles et venir rendre compte donc au gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui a organisé la mission. Mais une fois que nous nous sommes rendus sur place samedi, qu'on a été à Kouy, le premier constat, c'est que la ville était quasiment vide. Il n'y avait aucune force de protection, ni de la MINUSCA, ni des FACA, ni des forces de sécurité.
À Kouy-Centre.
À Kouy-Centre.
Ça, c'est la ville de De Gaulle.
Voilà. Et la ville était comme une ville morte. Les gens se cachaient pour nous regarder.
Il n'y a que les 3R qui contrôlent toujours
la ville. Donc, on est arrivé chez le sultan, à domicile chez le sultan. Et le sous-préfet était là, en poste, le sous-préfet de Kouy, avec le sultan et les notables. Et lorsqu'on leur a exposé le motif de notre mission, ils nous ont répondu tout simplement que mais la solution est simple. C'est les 3R qui ont interdit l'enrôlement. Qui ne voulaient pas d'enrôlement tant que leurs revendications posées au gouvernement n'étaient pas satisfaites. Donc, c'est eux seuls, par paralysme des formes, qui pouvaient lever l'interdiction. Et que eux, en tant qu'autorité, ils ne pouvaient pas demander à la population de sortir pour aller s'enrôler, donc de s'exposer au risque. Les agents de l'ANE également avaient peur de prendre des risques. Et naturellement, eux également, les autorités, ils avaient cette responsabilité. Donc, on s'est retrouvé devant la nécessité de discuter avec Sidiki. Parce que c'est lui qui a donné l'ordre, c'est lui seul qui pouvait donner le contraire. L'ordre contraire, je veux dire. Et donc, c'est comme ça que nous avons pris cette décision au sein de la mission d'entrer en contact téléphonique avec Sidiki et de l'inviter à cette réunion.
Merci beaucoup. Nous allons y revenir pour vraiment rentrer dans le vif du débat tant que tel. Qu'est-ce qui a été concrètement fait là-bas? Pourquoi aujourd'hui Abba Sidiki continue de régner dans cette zone de la République centrafricaine? C'est depuis plus de 3 mois que l'opération conjointe à la Londo est lancée contre les positions de 3R. Pourtant, le groupe armé reste toujours actif. Quelle lecture faites-vous, M. Bindoumi, de cette situation?
Bon, je vous remercie beaucoup de m'avoir associé à ce débat. Vous nous avez invités parce que deux Centrafricains qui étaient pris en otage avaient été libérés. À cette occasion, la Ligue Centrafricaine des Droits de l'Homme, qui est une organisation de liberté, salue la sortie de prison de ces deux policiers et donc encourage les autres policiers à ne pas se décourager par rapport à leur mission. Mais lorsque vous me posez la question concernant les 3R, savoir est-ce que les 3R défient le gouvernement ou pas, je voudrais vous dire que peut-être le débat pourra m'éclairer mieux. Nous sommes dans l'affaire des groupes armés dans un débat de sourds. Dans un débat de sourds où tout le monde s'accorde que nous ne sommes pas un pays en guerre, puisque nous allons aller aux élections dans ces conditions que notre pays n'est pas occupé, mais que tout le monde s'accorde aussi qu'il y a des actes d'hostilité qui sont posés par ceux qui sont nos amis dans l'accord politique de paix et de réconciliation, en posant des actes de guerre, parce que la prise d'otage est un acte hostile.
Et c'est la première fois en République centrafricaine.
Voilà, c'est la première fois en République centrafricaine, c'est un acte hostile. Et lorsque un groupe armé s'engage à considérer l'autre comme ennemi, au point de mener des attaques, de prendre des otages, de poser des actes de destruction, etc., nous pensons que ce sont des actes de guerre. Mais je crois qu'au cours de ce débat, on nous dira que ce n'est pas la guerre, puisque jusqu'au dernier moment, on nous disait que ce qu'on demande aujourd'hui à Sidiki, c'est qu'il revienne dans l'accord. C'est-à-dire, quand vous prenez en otage, vous tuez, vous attaquez, vous faites, on dit non, la meilleure solution, c'est que vous revenez dans l'accord et puis que l'accord est la seule solution de ramener la paix en République centrafricaine.
Merci beaucoup, monsieur Mouamra Benguepoussin. Vous êtes conseiller, je rappelle, en communication de l'ancien président François Bozizé, opposant dans ce débat politique. Quelle lecture faites-vous de cette situation?
Mais nous voyons le problème autrement. Nous avons une autre approche. D'abord, une question de principe. Sauf erreur de notre part, la RCS est censée être un pays indépendant et souverain. Et c'est élémentaire en politique que tout État indépendant et souverain doit revendiquer avec exclusivité le monopole du recours à la violence physique légitime. C'est-à-dire dans un État qui est digne d'être appelé un État, seule l'armée, la gendarmerie, les forces de police ont le droit d'user de la force des armes pour imposer l'ordre établi qui est celui de l'État. Depuis 2013, la RCA est soumise à une occupation inacceptable de l'essentiel de son territoire national. Et je me permettrai de dire que les hommes politiques et les intellectuels d'Afrique francophone et surtout de la RCA, nous ne sommes ni sérieux ni conséquents. Quand quelque chose est bleu, on n'est pas capable de nous entendre au-delà des considérations partisanes. Quels que soient nos partis politiques ou nos régions, nos ethnies, nous ne sommes pas capables de dire l'intérêt national, c'est celui-là, ce que nous voyons est bleu, nous n'avons pas intérêt à ce que ce soit bleu, mais plutôt vert, entendons-nous pour que ce soit vert. On n'arrive pas à le faire. Comment comprendre que le RCA, qui a des accords de défense et de coopération avec la France depuis 1960 et qui vient de signer un accord de défense avec la Russie, qui est la deuxième puissance militaire du monde et la première puissance nucléaire du monde, comment se fait-il qu'après avoir fait venir des troupes russes, signer un accord de coopération avec la Russie, la RCA soit obligée d'aller au Soudan se mettre à genoux devant des bandits armés? Ce ne sont pas des rébellions parce que c'est des étrangers. Et qui dit étranger dit mercenaires, c'est-à-dire des gens qui sont soudoyés par des étrangers ou des puissances étrangères pour déstabiliser un pays, pour massacrer des populations impunément. Parce qu'une rébellion, par définition, c'est une opposition politique armée qui a pris les armes pour contester et les orientations idéologiques et les politiques publiques du gouvernement en place. Donc le but d'une rébellion, c'est d'arriver au pouvoir et d'améliorer les conditions de vie des populations du pays en question. Ce n'est pas le cas de Sidiki ou de Aline Daras.
Et je rappelle que Abar Sidiki est venu après la coalition Séléka.
Oui, n'empêche, cela ne lui donne pas le droit de faire ce qu'il est en train de faire. Alors on ne comprend pas qu'on puisse organiser tout le temps des débats. Aujourd'hui c'est cuit, demain ce sera Aline Dao, après c'est Pawak. Le problème n'est pas là, c'est un problème de fond. La RCA doit revendiquer le droit de bénéficier des avantages prévus par l'article 1er de la Charte des Nations Unies, qui pose le principe du droit des peuples à l'autodétermination. Et l'article 2, qui pose le principe de l'égalité souveraine des
États.
Mais
le vrai problème, selon vous, ça se situe à quel niveau?
Le vrai problème, c'est que si le gouvernement centrafricain se sentait indépendant, il peut aller aux Nations Unies et dire que ce qui se passe en Centrafrique, ce n'est pas une guerre. Vous parlez de la Céléka entre chrétiens et musulmans, c'est un problème d'intérêt et que des pays étrangers ont décidé d'utiliser des mercenaires.
Quelques secondes.
Ce n'est pas ce qui se fait. Ce n'est pas la première fois que ça se fait. Il y a une ou plusieurs puissances étrangères qui se sont entendues pour déstabiliser la RCA, pour occuper la RCA en utilisant des mercenaires. Et qu'en vertu de l'article 1er de la Charte des Nations Unies, la RCA, le gouvernement centrafricain, demande à ce que le Conseil de sécurité lui reconnaisse le droit de faire appel à des puissances militaires étrangères, indépendamment de la MINUSCA, pour venir l'aider à résoudre son problème. Ce n'est pas la première fois que ça se ferait, ça se fait ailleurs. Pourquoi le gouvernement centrafricain ne le fait-il pas?
Merci beaucoup,
voilà la
Monsieur Mohamed Benga-Boussin, on va revenir avec vous. Monsieur Mapenzi, au regard de ce développement, il semblerait que le gouvernement est au bout de souffle face à Abba Sidiki. N'en parlons pas de Ali Darassa.
Ben, je vous remercie et je voudrais qu'on soit objectif. Dire que le gouvernement est dépassé, je le dis non, tout de suite. Tous mes co-débatteurs doivent être unanimes pour dire que ces rébellions ont commencé avant que le président Ouattara n'accède au pouvoir. Et nous faisons bien, vous avez bien fait d'inviter ici l'éminent juriste Bindoumi, avec qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration, président de la Ligue des droits de l'homme. Il était le dernier ministre de la Défense qui a passé le service au premier ministre de la Défense du président Ouattara. Il peut nous dire dans quel état notre armée était. Avait-on la possibilité de faire la guerre, oui ou non? Aujourd'hui, le gouvernement a démontré par cette mission qu'il garde toujours la main, qu'il n'est pas dépassé par les événements. Sauf que nous sommes dans une situation d'une guerre qui n'est pas conventionnelle.
Vous parlez d'une guerre connue.
Non, c'est parce que si je veux dire, j'emprunte l'expression aux autres. Nous ne sommes pas dans un cadre, dans une situation de guerre conventionnelle. C'est une rébellion qui a muté entre-temps. Parce que si en 2013, les Séléka, en 2012, puis en 2013, la Séléka, c'était pour prendre le pouvoir. Aujourd'hui, ces groupes armés ne sont plus en belligérance directe avec l'État. C'est-à-dire que la situation de la crise a changé. Ce sont des bandits. Et sauf que, comme le gouvernement, pour faire la guerre, il faut avoir les moyens de faire la guerre. Nous n'avons pas d'armée. On est en train de restructurer l'armée. L'armée est sous embargo. Comment pourront-on faire la guerre? Et donc, le gouvernement dispose.
Vous continuez à employer le mot guerre. Est-ce que c'est pour traquer ces bandits comme l'a considéré ici M. Mohamed Benga-Boussin?
Mais pour traquer ces bandits, vous savez très bien, Armando, que ces gens sont armés. Ils ont des mines antipersonnelles. Les forces ne sont pas les mêmes.
Ça veut dire que le gouvernement est dépassé?
Non. Non.
Allez-y.
Vous avez encore quelques minutes. Sauf si.
Non. Allez-y.
Non, vous, nous je sommes vous pose tous centrafricains autour.
Pour une réponse
non,
précise.
Non. Non, mais laissez-nous débattre d'un sujet et le temps de nous expliquer.
Allez-y. Vous avez quelques secondes.
Nous avons ici, autour de cette table, le dernier ministre de la Défense qui a passé le service au premier ministre de la Défense du président Touadéra. Il sait dans quel état nous avons. Si nous avions une armée en ce temps-là. Ensuite, aujourd'hui, notre armée n'a pas les moyens de faire la guerre. Il faut dire la vérité au peuple. N'a pas les moyens d'aller traquer ces gens puisque nous sommes sous embargo. Avec quoi? C'est avec les bâtons, avec les fleurs, va-t-on les combattre? Et donc, le gouvernement fait avec ses moyens. C'est pour ça, je reviens, le seul moyen, c'était de négocier. Et dans toutes les guerres, dans l'histoire de toutes les crises au monde, même quand les gens se battent, il y a des négociations qui se font.
Voilà, merci beaucoup. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, négocier avec Abbas Siddiqui qui met la pression sur les autorités centrafricaines. Ça veut dire qu'aujourd'hui, M. Martin Ziguele, vous aviez fait partie hein, de ceux qui ont été pour obtenir la libération de ces policiers. Je rappelle à tous les auditeurs ici qu'un soldat des forces armées centrafricaines est toujours dans la main hein, des 3 heures. M. Martin Ziguele, tout ce que vous avez constaté, il n'y a aucun élément de force de l'ordre dans la ville de Kouy. Ce sont les 3 heures qui continuent à contrôler la situation. Ça veut dire que l'opération à la Londo lancée conjointement par la MINUSCA et le gouvernement, est-ce qu'on peut parler de ce succès?
Non, moi je reviens toujours au fait.
Oui.
Quand on est arrivé à Kouy, samedi 3 octobre, vers 12h30, au domicile du sultan, maire de Kouy, Yaya Daouda, la première question que le ministre de l'Intérieur chargé de la Sécurité publique, qui était avec nous, le général Wanze, il a dit, Monsieur le maire, est-ce qu'il y a les forces de la MINUSCA ici, dans la ville, ou autour de la ville? Non. Est-ce qu'il y a des FACA ici? Non. Est-ce qu'il y a des gendarmes ici? Non. Est-ce qu'il y a des policiers ici? Non.
Mais où sont-ils là?
Ils ne sont pas dans la ville. Donc, je n'ai pas vu de militaires étrangers ou centrafricains dans la ville au titre de l'opération à la Londo.
Mais ça veut dire que la question du ministre...
Non, c'est très important la question. Le ministre a posé la question parce que lui également, il avait reçu l'information avant le voyage que les éléments dans la Londo sécurisaient la ville.
Ok, c'est
donc, en tant que ministre, il a posé la question devant nous tous et le maire a répondu non, il n'y avait rien. Qu'est-ce qu'il y a dans la ville? Il y a des éléments de 3 heures qui avaient même tiré le matin à 11h avant notre arrivée, qui avaient tiré autour de la ville. Et lorsque les deux hélicoptères qui nous transportaient arrivaient, c'est comme ça qu'ils se sont dispersés dans la brousse. C'est pour ça que le maire a dit, voilà la situation dans laquelle nous sommes. Nous n'avons pas de sécurité. On veut lancer l'enrôlement. La population a peur des menaces proférées par les 3 heures. Nous-mêmes, en tant que chef, il serait irresponsable de notre part de demander à la population de sortir et d'aller au casse-pipe. Donc, je pense que, comme l'ont dit les uns et les autres ici, il ne s'agit pas de faire du déni de réalité. Est-ce que la population est sécurisée dans les zones où on nous dit qu'il y a l'opération à la Londo? La réponse est non. Claire et nette. C'est pour ça d'ailleurs...
Oui, quelques secondes.
C'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'on s'est retrouvé avec le sultan et le sous-préfet qui représente l'État sur place, que le sous-préfet a confirmé ce que je viens de dire, et que nous, notre objectif, c'était de relancer le processus électoral, donc l'enrôlement, et d'obtenir la libération de nos compatriotes, jeunes compatriotes, qui sont quand même pris en otage. Nous avons dit, l'auteur de ces faits-là, c'est Abbas Siddiqui, et nous avons pris la décision entre nous, au sein de la mission. Ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui nous a donné les instructions. Nous avons dit, si nous venons pour résoudre un problème, il faut qu'on s'adresse à celui qui est à la base du problème.
D'accord.
Et c'est comme ça que nous avons pris la responsabilité d'entrer en contact avec son chef d'état-major, parce que nous n'avions pas le contact de Siddiqui, et c'est son chef d'état-major qui l'a contacté pour que nous ayons un rendez-vous le lendemain. Et nous avons pris rendez-vous pour le lendemain dimanche à 9h pour revenir discuter avec lui, pour savoir pourquoi il refuse qu'on fasse le recensement. Et il a accepté le rendez-vous, et lorsque nous sommes revenus à boire pour revenir le lendemain, dans la nuit, il a refusé. Il dit qu'il ne veut plus du rendez-vous, sauf si ça se tient en présence des garants et des facilitateurs. C'est comme ça que les garants et les facilitateurs se sont joués au jeu. Non, je fais la précision.
Oui, parce qu'il
y a beaucoup d'amalgames. Il y a des gens qui disent, oui, nous sommes allés pour négocier avec Siddiqui. Non, nous ne sommes pas allés pour négocier avec Siddiqui. Nous sommes allés pour faire le constat de la sécurité et de l'état de l'enrôlement. Et quand nous sommes arrivés, nous avons constaté qu'il n'y avait aucun dispositif sécuritaire et que l'ordre
de ne pas faire le recensement était donnée par Sidiki. Donc nous avons pris, en tant qu'adultes autonomes politiquement, nous avons pris la décision de rencontrer Sidiki. Et ça, c'est ça la réalité.
La réalité, on va revenir parce que si aujourd'hui Abba Sidiki accepte que le processus d'enrôlement puisse reprendre dans la localité, ça veut dire qu'il y a une négociation. On va y revenir pour vraiment comprendre cette partie. Monsieur Joseph Bindoumi, au regard de cette situation dans Luampende, beaucoup plus à Kui, et la situation, je voulais parler...
Et la
Nana Mambiré, oui, une partie de la Mambiré, bien sûr.
Yaboar, Besson, Niem, Yeloa, tout ça c'est dans la Nana Mambiré.
D'accord, c'est une partie de la Mambiré, oui. Et aujourd'hui, hein, Abba Sidiki règne un maître dans cette localité au regard de ces explications de M. Wizigili.
Bon, alors, j'ai été interpellé plusieurs fois en ma qualité d'ancien ministre de la Défense qui a participé à l'installation et à l'installation au pouvoir du président Faustin Archange Touadéra, puisque j'ai préparé le défilé militaire avec lui. Et donc, on me demande de dire, est-ce qu'il y avait la possibilité de faire la guerre? Si vous m'autorisez, je reviendrai sur cette question.
Je
reviendrai sur cette question plus tard, parce que je suis invité en ce qui concerne la question de Kui.
D'accord.
Je voudrais vous dire très, très sincèrement, et puis surtout fermement, que le problème centrafricain, c'est un problème de langage politique. C'est un problème de langage politique et je m'adresse ici à tous mes co-débatteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous prenez une mission pour aller à Kui, demandez à ce qu'on vous donne l'autorisation de faire enrôler les Centrafricains dans leur propre territoire. Ils ne sont pas à l'extérieur, ce ne sont pas des réfugiés, dans leur propre territoire. Lorsque on parle avec quelqu'un qui a donné l'ordre qu'on prenne des policiers qui étaient à leur poste, qu'on est venu surprendre à leur poste. Et que dans le langage politique, on nous dit que nous ne sommes pas allés pour négocier avec Sidiki, et que pour nous, certains disent qu'on va négocier avec Sidiki. Mais vous avez négocié avec Sidiki et vous avez obtenu, félicitations pour ça, la libération des deux policiers. Vous avez aussi obtenu que sur notre propre territoire, il y ait un groupe armé qui décide de nous autoriser à recenser nos populations. Et vous concluez que la République centrafricaine n'est pas en guerre. Vous concluez. Je parle...
Du premier vice-président de l'Assemblée.
Du premier vice-président de l'Assemblée. Vous dites que la République centrafricaine n'est pas en guerre. Parce que nous ne sommes pas en guerre. C'est un petit groupe armé qui s'agite dans les préfectures de Nana Mambiré ou Mpende. Et puis que, bon, nous avons dû l'appeler pour téléphoner pour qu'il vienne et il a résisté. Il voulait les garants. Les garants, c'est qui pour la République centrafricaine? Les garants, c'est qui? Les garants, c'est des étrangers qui n'ont rien à voir. J'ai parlé avec des étrangers qui sont en République centrafricaine. Je leur ai posé la question suivante. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui en République centrafricaine est susceptible de se passer et accepter dans votre pays? Ils m'ont dit, Monsieur Bindoumi, président de la Ligue, non.
La réponse est non.
La réponse, c'est non. La réponse, c'est non parce que c'est comme si, aux États-Unis, l'Amérique acceptait que l'État de New York soit contrôlé par Al-Qaïda et puis que pour faire des actions en Amérique, le président américain
demandait
des instructions à Al-Qaïda, je ne veux pas citer son leader puisqu'il est mort, pour qu'il fasse des opérations. Je voudrais penser que en Russie, si vous demandez à un Russe, est-ce que la Russie, à la date d'aujourd'hui, peut accepter que il y a des mouvements armés qui occupent une partie de son pays,
quelques secondes,
etc. Je voudrais demander au Cameroun, à côté de nous, où nous avons des contingents ici, est-ce que le Cameroun accepte que il y ait des groupes armés qui occupent une partie du Cameroun?
Des groupes armés centrafricains d'ailleurs.
Voilà, qui occupent une partie du Cameroun, et puis que le Cameroun dise oui, bon, je vais aller négocier avec eux pour qu'on m'autorise à enrôler mes électeurs et puis à faire des élections chez moi. La réponse, mes frères et sœurs, qui nous écoutaient, la réponse est non. Mais pourquoi est-ce que nous, Centrafricains, quand nous savons que ce qui se fait chez nous est ce qui ne se fait nulle part au monde, et puis nous continuons de fermer les yeux?
Apparemment, cette question vous pique.
Oui, vous voyez comment je suis piqué.
Je vois.
Bon, je vous remercie beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup.
Sidiki Abbas donne de nouveau son accord pour la reprise des opérations d'enrôlement dans Luampende. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui garantir ou en quoi peut-on faire confiance à ce nouvel engagement, Monsieur Bengebossan?
Je remercie le Premier ministre Guélé et le ministre président de la Ligue des droits de l'homme pour ce qu'il vient de dire, Monsieur Bindoumi.
Et pas...
Non, ça c'est mon frère. Mon frère en face, Touadéra aussi, c'est notre frère. Le problème du pouvoir en place, le problème du président Touadéra, c'est que Ils vivent dans l'illusion selon laquelle les Centrafricains sont majoritairement des paysans. Ils sont naïfs, ils ne comprennent rien à ce qui se passe dans notre pays.
Ah bon?
Oui, mais il y a eu des aveux aussi. Quand il dit que ce n'est plus des rebelles, mais c'est des bandits. Il n'ose pas dire que c'est des mercenaires, il dit que c'est des bandits, admettons. Lorsque des bandits sont capables de mettre à mal l'autorité de l'État, de contrôler 80% du territoire national.
Ça reste à prouver.
Mais le pouvoir lui-même a l'habitude de dire 80%.
Ça reste à prouver.
Même si c'est 10%. Prenons 10%. Le ministre Bindoumou l'a dit. Quel est le pays au monde, même un pays africain, prenons l'Angola, prenons l'Afrique du Sud, quel est ce pays au monde qui est indépendant et souverain, qui contrôle l'intégrité de son territoire, qui peut accepter à un moment donné que des bandits ou des mercenaires, même des rebelles qui sont des nationaux, puissent contrôler 5% de son territoire par la force des armes? Dans tous les pays du monde, sans exception, la rébellion, le mercenariat sont interdits et sont punis de la peine capitale. Alors, maintenant, on nous dit ce pouvoir qui est en place là est compétent, il est patriotique, il fait bien son travail, il n'est pas dépassé, mais un petit groupe de bandits, il admet que c'est des bandits, empêche le gouvernement qui nous promet qu'il y aura des élections à la date prévue, mais voilà que le gouvernement ne peut pas organiser un enrôlement. Voilà que le gouvernement n'est pas capable de déployer des policiers ou des gendarmes ou des soldats à Kwi. C'est le maire de Kwi qui l'a dit, le premier Ziguele vient de le dire, c'est pas moi, le maire de Kwi. Il n'y a pas de gendarmes, il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de soldats. Le gouvernement est dépassé. Et voilà ce gouvernement qui croit qu'il peut gagner les élections dans ce pays et au premier tour. Ça fait sourire.
D'accord, je vois M. Mapenzi veut réagir très rapidement sur cette question. C'est la même question pour tout le monde, hein, avec ce nouvel engagement de Abba Sidiki pour que le processus d'enrôlement puisse reprendre dans ces zones qu'il contrôle. Ça veut dire qu'il est encore fort.
Ben, ça, c'est vous qui le dites. Mais je pense qu'il ne faut pas faire le déni de la réalité, comme a dit le président Ziguele.
En tout cas.
Je le dis et je répète, Sidiki a bien empêché les gens de s'enrôler. Il a fallu que le gouvernement décide
d'une mission.
Et les autorités, mais il a fallu que le gouvernement décide, dire l'enrôlement doit se faire, une mission est allée. Qu'est-ce que nous voulons? C'est le résultat. Aujourd'hui, les enrôlements ont commencé. Je me passe de tous les détails. L'enrôlement a commencé. Ça veut dire que le gouvernement n'est pas dépassé. N'en déplaise à mon frère Bengo Bossin. Ensuite, nous ne sommes pas, la RCA n'est pas le seul pays au monde qui fait face à des rébellions. Là aussi, il ne faut pas faire le déni de la réalité. Il y a le Mali, il y a le Niger avec Boko Haram, le Nigeria, le Cameroun même, dont on cite un exemple.
Leur armée frappe.
Mais je vous l'ai dit, notre armée est sous embargo. C'est pas la même chose.
Si l'embargo continue, c'est que notre diplomatie est faible.
Non, mais vous reconnaissez que nous sommes encore sous embargo et la RCA, le gouvernement respectueux de ses engagements internationaux, ne peut pas contourner l'embargo parce que il y aura le retour du bâton et ça va être autre chose. Donc,
non,
le gouvernement est objectif.
Ou quasi inexistante.
Non, vous savez, quand le président Touadéra a pris le pays, nous étions un État failli. Aujourd'hui, nous sommes passés d'un État failli à un État agressé. C'est un progrès et je pourrais même dire c'est presque un miracle. Il faut le reconnaître.
C'est votre appréciation, c'est pas l'avis de
la population. Non, mais c'est la réalité, mon frère Bongo Bossin, c'est la réalité. Quand le président Touadéra avait pris le pouvoir, l'administration était inexistante sauf à Bangui. Nous n'avons pas d'armée.
Nous parlons du présent.
Mais nous n'avons toujours pas d'armée.
Non, mais il faut partir du passé.
Nous n'avons toujours pas d'armée, mon cher frère.
Il faut évaluer le parcours et les progrès réalisés. Si on ne le fait pas, je ne sais pas pourquoi on va débattre ici. Et il faut dire la vérité au peuple, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes sous embargo. L'armée ne peut pas manœuvrer librement parce que.
Mais nous avons vu un contingent des forces armées centrafricaines qui devait être déployé à Kwi et à Bukaranga, qui a été empêché par Abba Sidiki. Ça veut dire que l'armée est opérationnelle.
Non, mais je vous dis, ces déploiements se font de manière conjointe avec la MINUSCA. Nous sommes respectueux de nos engagements.
Vis-à-vis de qui?
Mais le jour où.
Allez-y, gagnez votre temps, oui.
Nous aurons le temps de faire la guerre, ou si vous voulez, de chasser ces bandits, nous le ferons. Mais pour l'instant, laissons la place à la négociation, parce que négocier n'est pas une faiblesse.
D'accord, mais je vous rappelle qu'à Obo, l'autre côté de la République centrafricaine, les forces armées centrafricaines ont fait un succès et toute la population, les autorités ont applaudi cette armée-là. Ça veut dire que l'armée est opérationnelle.
C'est un exemple pour dire que quand l'armée peut, elle le fait.
Et donc, à qui l'armée ne peut pas?
Mais je vous dis, c'est une mission. À la Londres, c'est une mission conjointe avec la MINUSCA. Demandez Vous allez voir, le jour où on va lever l'embargo total.
Je peux poser une question à monsieur?
Oui, allez-y, c'est votre toit. Oui. Alors, quelques secondes, je vous en prie. Monsieur Bengo Boussa.
Expliquez-nous pourquoi le président Touadéra a fait venir les Russes et a signé avec eux un accord de défense.
Je peux vous dire, si vous ne connaissez pas le contenu, l'accord de défense avec la Russie dit si on ne fait face à des mercenaires. Et à des terroristes.
Oui.
Or, aujourd'hui.
Et Sidiki est quoi?
Non, je vous dis.
Oui, allez-y, monsieur Bengo Boussa.
Qui a fait venir Sidiki? Qui a fait venir Ali Darassa?
Dites-le.
Non, vous le savez, vous devez répondre. Parce non, que
oui, si vous avez une réponse Sidiki, par rapport à ça, oui.
Sidiki est arrivé après les Séléka, mais il est venu à la demande des autorités locales de l'Ouest.
Vous voulez parler de qui?
Mais vous savez
des sous-préfets, des préfets. Pour étayer la lenteur du peuple centrafricain, parce qu'on est dans ce débat politique pour dire la vérité.
À l'époque, cette partie de ce territoire, notamment l'ouest du pays, fait face à l'irruption des Baraka. Et donc, les chefs traditionnels, les Lamido de l'ouest, ont fait venir Sidiki, qui était coupeur de route au Cameroun, pour venir les protéger, soi-disant. C'est comme ça qu'il est venu. Mais Ali Darassa, vous savez qu'il est venu dans les balises de Babalade, à l'époque, vous savez très bien, mais vous pouvez nous dire, puisque vous êtes du KNK, et donc vous devez le savoir.
Merci beaucoup. Quelques secondes, on va revenir sur ce point.
Et ça leur donne le droit de ne pas être frappé par l'armée centrafricaine, ça
Monsieur
n'a pas
Bengo
de sens.
Bossin, je vous en prie, on gagne du temps. Monsieur Martin Ziguele, vous avez écouté ce que Monsieur Mapenzi a dit.
Quelle que soit l'époque,
les Troisières sont venus à la demande des Lamido de cette localité. Pourquoi ne pas directement négocier avec ceux, puisqu'on considère Abbas Sidiki comme un étranger, un peu le Camerounais, pourquoi ne pas négocier avec ceux qui l'ont amené aujourd'hui?
Oui, j'ai mené la même réflexion que vous, naturellement, sur le terrain, parce que je cherche à comprendre et je cherche à résoudre un problème. Je suis dans la démarche d'une ménagère qui est mère de famille, qui a 10 enfants à nourrir, il sort le matin, son mari lui donne 1000 francs et elle doit faire à manger aux 10 enfants. Comment faire? Elle ne va pas acheter du caviar, elle ne va pas acheter de la viande, du filet. Elle va acheter quelque chose qui permet aux enfants d'accepter la nourriture, d'être rassasié et d'aller à l'école.
Ça veut dire quoi?
Est-ce que dans le dispositif en place, qui a un volet militaire et qui a un volet politique, comment faire pour progresser vers la voie de la paix en préservant les droits de la justice et les droits des victimes et en faisant ce que, à la fin, l'État soit debout? Je vous assure, je ne suis pas le seul centrafricain à mener cette réflexion. Je crois que d'autres avant moi, des polémologues, on a déjà dit que dans l'art de la guerre, quand vous faites la guerre pour arriver à la paix, il y a un principe, en anglais on dit ça, kick and talk. Vous frappez, puis vous discutez. Quand ça bloque, vous frappez, puis vous discutez. Donc, on frappe des groupes armés, mais on discute avec qui? Il faut discuter avec l'ensemble des parties. Et ceux qui ont appelé au secours, ces groupes armés, et ces groupes armés, par principe de réalisme. Et je veux vous faire une confidence. Quand nous étions à Khartoum, j'ai fait des suggestions, j'ai dit... Lorsque vous voyez l'histoire des guerres au Tchad, la guerre civile au Tchad, qui a duré pratiquement 46 ans, c'est le président Déby qui a stoppé ce phénomène au Tchad. Lorsque vous voyez l'Angola, qui a connu 42 ans de guerre civile, aviation, armée de terre, marine, tous avec toutes les armées du monde, Chine, URSS à l'époque, Cuba, États-Unis. Comment ils ont fait? Lorsque vous voyez comment ils règlent les crises, il y a les volets des discussions. Quand vous voyez comment ils règlent les crises, vous voyez la guerre, c'est-à-dire l'affrontement entre la puissance légitime et les groupes armés, mais vous voyez aussi un autre phénomène qui sont les discussions politiques avec les protagonistes. Et le troisième volet, lorsque vous arrivez à la solution, c'est quoi? C'est systématiquement le cantonnement des troupes. Le cantonnement des troupes. Pourquoi on cantonne? Mais pour identifier qui sont dans les groupes armés et qui ne sont pas dans les groupes armés. Ben, il faut d'abord le savoir. Deuxièmement, quels sont leurs armements individuellement et collectivement? Il faut le savoir. Et c'est en troisième position maintenant qu'on lance un processus de DDR qui tient la route. Parce qu'il y a eu la frappe, la négociation, le cantonnement, l'identification et le recensement des armes. Comment on peut arriver à la paix si le cantonnement n'est pas fait? Quand j'ai fait la suggestion, on m'a dit que c'est très cher.
Quelques secondes.
Que c'est très cher, que c'est trop cher. Et quand on est revenu à Bangui... Dans le cadre du comité exécutif de suivi, quand les premiers incidents ont commencé, j'ai rappelé la nécessité du cantonnement. J'ai même interpellé quelqu'un dans le comité exécutif de suivi. J'ai dit, mais vous êtes d'un pays où il y a eu le cantonnement à la sortie de la guerre. Comment vous me dites que...
Quelques secondes. Vous
voyez un processus de paix, un accord de paix qu'on est en train de... sans cantonnement, et vous soutenez ça. Il me dit non, c'est la communauté internationale qui dit que c'est trop cher. Ne nous focalisons pas sur des épiphénomènes. Ne nous focalisons pas sur les conséquences ou bien les actions que nous posons sur le terrain. Remontons au sommet. Est-ce qu'il y a une volonté unanime d'accompagner la République centrafricaine rapidement à la paix? Moi, je suis très dubitatif sur la réponse.
Merci beaucoup. Je reste avec vous, Monsieur Martin Ziguele. Sur les réseaux sociaux, des commentaires se font, comme quoi vous avez tenu des langages très fermes vis-à-vis d'Abbas Siddiqui. Mais on vous voit avec Abbas Siddiqui autour de la table, faire la photo en pleine négociation. Ça veut dire que c'est la négociation qui prime et non la guerre. Ça veut dire que le président de la République a raison pour continuer à tendre la main.
Vous savez, je suis un ancien séminariste. J'ai lu la Bible en entier, l'Évangile et l'Ancien Testament. Seul le Saint-Esprit a pu faire concevoir la Sainte Vierge d'un enfant qui est Jésus sans qu'il y ait contact physique. Je ne sais pas comment on peut résoudre un problème sans engager des discussions en face à face avec ceux qui ont donné l'ordre de ne pas faire l'enrôlement et qui ont pris en otage des jeunes centrafricains. Je le répète, comment on fait? Je dis comme moi, Martin Ziguele, je suis candidat aux élections présidentielles ou législatives. Et que j'ai peur qu'on dise que voilà, on m'a vu avec Siddiqui, donc je ne le vois pas, je ne l'approche pas, je ne parle pas avec lui. En ce moment-là, objectivement, je suis pour que le système n'avance pas. Et d'autres personnes ont dit, mais pourquoi je ne l'ai pas arrêté? Vous savez très bien que je ne suis pas officier de police judiciaire. Je passe en face d'un magistrat émérite. Ce n'est pas moi qui arrête les gens. Troisièmement, les gens me disent, oui, mais...
Quelques secondes.
Mais c'est un piège. Si c'est un piège qui m'a été tendu et que cela a servi à des compatriotes centrafricains de s'enrôler pour s'exprimer, parce que c'est un droit républicain, c'est un droit constitutionnel, j'allais dire, et qui a permis à deux jeunes d'avoir leur liberté, je demande à Dieu de me donner la force de recommencer. Je vous dis, pour finir,
oui, pour finir,
si demain, il y a une telle mission pour aller voir Ali Darassa à Bokolobo, et qu'on me demande est-ce que je vais y aller, je serai le premier volontaire. Je suis un militant politique. J'affronte ceux avec qui je ne suis pas
merci
d'accord.
Merci beaucoup, mais quelques secondes, monsieur Martin Ziguele,
je les
avec vous.
De face.
Oui, quelques secondes, mais quel était le sentiment d'Abbas Siddiqui de vous voir, vous qui avez demandé qu'il soit arrêté, qu'il soit tué même, j'imagine ce sentiment.
Vous imaginez bien qu'on ne s'est pas embrassé. Au premier contact, vous imaginez bien. Mais ça, c'est rien. Vous savez, Nelson Mandela, il a créé la branche armée de l'Umkoto à Sizwe, de l'ANC. Je parle face à un révolutionnaire. Il a organisé l'ANC pour poser des bombes pour tuer des membres. On l'a mis en prison pendant 27 ans. Il a négocié avec ses geôliers les conditions de la libération de l'Afrique du Sud tout en étant en prison. Il est sorti de prison par la négociation. Il a détruit l'apartheid. Et il a fait arriver au pouvoir l'ANC qui ne savait pas comment s'en sortir depuis 27 ans. Et il a évité à son pays et la guerre civile. C'est pour ça que je dis que quand vous êtes militant politique, vous affrontez. Vous affrontez ceux qui ne pensent pas comme
merci
vous ou qui
beaucoup.
Portent. Vous
merci.
Les affrontez.
Merci beaucoup, Martin
Ziguele.
Interpellé à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Firmin Gribada a décliné sa responsabilité dans les négociations avec Abbas Siddiqui. Pour lui, négocier ne faisait pas partie des objectifs de la mission. Qu'en dites-vous, monsieur Mapenzi? N'est-ce pas un paradoxe à ce niveau?
Non, c'est pas un paradoxe. Je vous dis, il faut pas prendre
Au regard du développement de monsieur Ziguele.
Non. Il faut pas prendre mot pour mot. Cette mission, comme le président Ziguele vient de le dire, c'est une initiative du gouvernement qui a saisi l'Assemblée. Et le président de l'Assemblée m'a demandé de rentrer en contact avec les collègues de la zone qui peuvent aller. Naturellement, le premier que j'ai appelé, c'est le président Ziguele. La mission, c'était...
Ce n'est pas un piège.
Ce n'est pas un piège. Au contraire, nous devrions aider le gouvernement à ce que l'enrôlement se fasse. Parce que il ne vous a pas échappé que nous devions aller aux élections le 27 décembre. Ce que nous avions, on aurait pu éviter tout ça si on avait été compris dès le mois d'avril. Et même, on ne revient pas dessus le passé. Ce qui est fait. Nous avons une obligation d'aller aux élections le 27 décembre. Donc le gouvernement a pris la décision de mettre en place cette mission. Mais la mission, c'était d'aller faire démarrer l'enrôlement. Bien entendu, c'était pas pour négocier. Mais comme, dans certains langages, il dit, c'est le terrain qui commande, eh bien, sur le terrain, la mission a constaté que pour que l'enrôlement se fasse, il faut négocier avec les donneurs d'ordre, ce qui fut fait. Ce n'est pas un crime. Je vous le dis. Et ceux qui disent qu'il ne fallait pas négocier avec Siddiqui ont tort sur toute la ligne parce que
Vous voulez parler du Premier ministre, qu'il a dit,
Non, il a rappelé, parce que les gens, il faut situer la déclaration du Premier ministre dans le contexte. J'étais à l'Assemblée, il répondait.
Vous vous souvenez de ça?
Bien, très bien, mais
merci
il
beaucoup.
Répondait
merci.
À une question d'un député qui pensait que le gouvernement, comme le dit mon voisin Bengue Bossin, que le gouvernement était à bout de souffle et qui a envoyé négocier. Non. Donc, cette réponse, il faut la situer dans son
quelques
contexte.
Secondes.
Et je continue.
Parce que je vois
M.
Bengaboussien vouloir réagir à
bien sûr,
à
il va réagir
rapidement.
Mais je laissez quelques secondes.
Quelques secondes, je vous en prie. 30 secondes.
Toutes les guerres du monde,
oui.
En dehors de ce qu'on voit, il y a les négociations en bas. C'est ce que je veux savoir.
Merci beaucoup, M. Bengaboussien. Je reviens sur ma question pour vraiment étayer la lanterne du peuple centrafricain, des centrafricains de la diaspora et ceux qui nous écoutent dans le monde. Interpellé à l'Assemblée nationale, le Premier ministre, Grébada, a décliné sa responsabilité dans les négociations avec Sidiki Abbas. Pour lui, négocier ne faisait pas partie des objectifs de la mission. Mais en écoutant M. Martin Ziguele, en écoutant M. Mapenzi, il y a un paradoxe à ce niveau. Ça veut dire qu'on parle de la négociation en bas, mais langage de la guerre en haut.
En fait, de mon point de vue, et je crois que je ne me trompe pas, c'est que l'initiative de cette mission vient du président Touadéra lui-même. Et son objectif, ce n'est pas de libérer les policiers, ou pas seulement de libérer les policiers, mais c'est pour compromettre le Premier ministre Ziguele. Le Premier ministre Ziguele a bien fait de ne pas se débiner et d'y aller. Il a bien fait de le faire.
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Vous pouvez expliquer davantage.
Pour le président Touadéra,
oui.
Le Premier ministre Ziguele, qui est son allié, qui est dans la majorité, aurait dû ne pas être candidat à la prochaine élection présidentielle.
Non, non.
Mais je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Nous parlons de politique.
Je vous ai dit que le gouvernement a saisi l'Assemblée. C'est le président
Monsieur
de l'Assemblée m'a dit, on a expliqué.
Monsieur Mapenzi, est-ce que vous pouvez souffrir un peu?
Non,
pouvez souffrir. Je vous en prie. C'est moi qui gère le débat. Si je vous retire la parole, vous acceptez que les gens vont
la réaction de mon frère Mapenzi est un aveu.
Je peux répondre après.
Non, allez-y, monsieur.
Le président Touadéra, sa priorité aujourd'hui, c'est de gagner les élections à tout prix. Quand bien même il sait qu'il n'a aucune chance, comme le président Kolim en 93, de figurer au deuxième tour. Donc, je disais que l'initiative de cette mission vient du président Touadéra, qui m'entend, je l'espère. Je sais comment ça fonctionne là-bas. Qui a décidé de piéger le président Ziguele, qui est son allié. Et nous savons qu'il a tout fait pour qu'il n'y ait qu'un seul candidat de la majorité pour l'élection présidentielle. Ce n'est pas le cas. Et donc, nous sommes en politique. Il ne peut pas faire autrement que de piéger son adversaire de son propre
Monsieur
camp Ziguele, pour
là,
le réduire.
Répondre, si
et Monsieur Ziguele, le président Ziguele a bien fait d'y aller et de prouver par la suite que ce n'est pas en engageant des négociations qu'il va se compromettre. Parce que ce n'est pas lui qui est président de la République, ce n'est pas lui le ministre de la Défense. Et je me permets de rappeler ici qu'un général centrafricain, qui sait ce que c'est que l'armée centrafricaine, parce que c'est un ancien enfant de troupe, a eu à dire, sauf erreur de ma part sur ce plateau il n'y a pas longtemps, qu'aujourd'hui, l'armée centrafricaine a une certaine capacité pour affronter et détruire ces hordes de bandits armés qui écument le nord, est et ouest de notre pays. Et que si cela ne se fait pas, c'est par manque de volonté politique du président Touadéra et de son gouvernement. C'est pourquoi j'avais posé la question de savoir pourquoi avoir fait venir l'armée russe et de conclure avec la Russie un accord de défense. On m'a répondu que dans cet accord, il est question d'attaquer seulement des mercenaires et des terroristes. Donc c'est pour dire que pour le président Touadéra et son premier ministre, Sidiki et Alindaras ne sont pas des mercenaires. Ce sont ses alliés politiques, le peuple centrafricain, nos populations nous écoutent. Ils peuvent noter que pour le président Touadéra et son gouvernement, Alindaras et Sidiki ne sont ni des mercenaires, ni des terroristes, et qu'il n'y a aucune raison qu'ils puissent envoyer l'armée pour les frapper.
Voilà, M. Mapenzi est là au nom du pouvoir, il va donc répondre à cette préoccupation. M. Joseph Bindoumi, au regard de cette situation, que fait concrètement la Ligue centrafricaine des droits de l'homme dans ces zones occupées par Abbas Sidiki, Alindaras? Est-ce qu'il y a des enquêtes qui se poursuivent pour déterminer les responsabilités?
Les enquêtes sont nos missions officielles.
Merci.
C'est notre raison d'exister en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme.
Mais vous avez 2 minutes, je rappelle.
Non, vous m'avez donné 2 minutes, je vais prendre une.
Je vous en prie.
Je remercie mes co-débatteurs qui ont beaucoup insisté sur le fait que lorsqu'il y a une guerre, je répète ma pensée, Ziguele, il faut toujours aboutir à la négociation. Dans notre pays, on a dit qu'il n'y a pas guerre. Maintenant, au moins aujourd'hui, nous allons changer notre langage politique. Nous ne sommes pas un pays post-conflit, mais nous sommes un pays en guerre. Ça, c'est la première réponse que je vais donner. La deuxième réponse, c'est que nous disons que notre armée est faible parce que notre armée est sous embargo. Nous n'avons jamais demandé la levée de l'embargo. Ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est de faire des rapports aux Nations Unies. La demande de on a fait
bien
des rapports aux Nations Unies, mais on n'a jamais demandé la levée de l'embargo parce que la levée de l'embargo est un acte technique, militaire, qui explique que sur le terrain, par acte en date de tel jour, nous nous sommes trouvés confrontés à l'ennemi qui a utilisé telle puissance de feu et nous avons dû battre en retraite en tant qu'armée nationale parce que nous n'avions pas les armes qu'il fallait. On n'a jamais fait une telle démonstration. Et le comité de sanctions nous a répondu dernièrement en disant
quelques secondes.
Vous n'avez pas fait la guerre, vous n'avez pas fait la guerre, et vous avez décidé que vous allez avoir la paix sans faire la guerre. Pourquoi est-ce que vous demandez qu'on vous donne des armes? Je ne sais pas si vous avez compris. Mmh. On a dit que nous, on ne veut pas faire la guerre parce que nous voulons la paix, et la paix va nous aider à libérer notre pays.
Vous écoutez, monsieur Mapenzi.
Et comme nous avons décidé de libérer le pays par la paix, pourquoi est-ce que nous demandons qu'on nous lève l'embargo pour libérer le pays par la force? Et donc, voilà les comportements que nous avons. Maintenant, je voudrais vous signaler...
Oui, quelques secondes,
que,
je vous en prie.
Oui, vous m'avez donné deux, j'ai déjà pris...
Même deux.
Alors, je voudrais vous signaler que j'étais ancien ministre de la Défense. J'ai parlé avec Joseph Nzundiko, qui s'est mis à genoux en disant « Je ne peux pas, en tant que Centrafricain, autoriser que mon pays soit envahi par des mercenaires étrangers. Je m'aligne auprès de l'armée centrafricaine pour me battre. » Ils l'ont tué, paix à son âme. J'ai discuté avec Sidiki. Et Sidiki était... Quand j'ai posé la question à Sidiki, Sidiki m'a répondu et il m'écoute. Il m'écoute, s'il y a des gens qui écoutent français, ils vont répéter que le ministre de la Défense de l'époque, M. Joseph Bindoumi, vous a appelé au téléphone, vous a demandé qu'est-ce que vous faites dans l'Ouampende. Il a répondu que les éleveurs avaient été souvent victimes de l'agression des anti-Balaka qui allaient récupérer les bœufs et qu'il a rassemblé les éleveurs pour empêcher les anti-Balaka de les dépouiller de leur bétail. Je lui ai dit clairement, tu arrêtes.
Avec
un
ton autoritaire.
Oui, avec le ton que j'utilise maintenant, tu arrêtes, il m'écoute, tu arrêtes, parce que tu n'as pas une mission d'État pour que tu protèges les éleveurs centrafricains.
Monsieur Bindoumi, je reste avec vous rapidement.
Oui. Il a arrêté, et je devais aller dans l'Ouampende le 15 mars 2016, mais comme le 15 mars 2016, nous étions engagés à poursuivre l'investiture du nouveau président, nous avons retardé cette mission pour faire partir...
Et ça, vous répondez à tant que l'ancien ministre de Défense.
Oui, puisqu'on m'a interpellé...
Monsieur Bindoumi, je reste avec vous. À qui attribuer le succès de la reprise du recensement électoral dans la sous-préfecture de Kouyé Dengamda, selon vous, ce succès?
Est-ce qu'il y a eu reprise des opérations électorales?
Oui.
Alors non, moi, je vais vous dire, nous nous sommes amusés avec les populations de l'Ouampende. Je vous dis ça. Lorsque vous avez entendu l'opération Londo...
À la Londo.
Est-ce que cette opération-là, menée conjointement par la communauté internationale et l'armée centrafricaine, est-ce que vous avez déjà écouté le bilan de cette opération? Nous avons pris combien d'armes au cours de cette opération? Nous avons pris combien de prisonniers au cours de cette opération?
Nous avions déjà posé cette question aux responsables, mais bon, on a réponse tard à venir.
Personne,
merci beaucoup.
Personne, c'est-à-dire qu'on s'est amusé.
Merci beaucoup.
Et c'est dit qu'il s'est déplacé, et quand il s'est déplacé, il est revenu à sa base, comme a confirmé le président Martin Ziguele, qui dit que effectivement la ville de Kouy n'est surveillée que par les hommes de Sidiki.
Merci
à partir de ce moment-là, je voudrais terminer
gagner
pour
du temps,
dire comment on traite les Centrafricains. Comment on traite ça? Parce qu'aujourd'hui on se félicite
avec mépris.
Alors, comment on peut imaginer qu'on dise aux Centrafricains que oui, vous voyez, nous avons fait des négociations et ce que vous avez appelé dans tous les langages, vous voulez bandits armés, forces armées, à ou donner l'autorisation pour que l'autorité nationale, l'autorité constitutionnelle de l'État chargée des élections envoie les gens là-bas.
Merci
parce
beaucoup,
que
monsieur Bindoumi.
On prend les Centrafricains.
Vous avez une minute, monsieur Martin Ziguele. Nous savons que Abba Sidiki a mis la barre très haut en insistant sur la libération de ces éléments arrêtés par Bangui et la reconnaissance de 8 de ses généraux ou du moins de ses officiers dans l'armée nationale. Quelle contrepartie pour cette libération?
À ma connaissance, je précise, il n'y a pas eu de contrepartie, à ma connaissance. Mais ce que je sais, c'est que Abba Sidiki a remis un cahier de doléances aux garants et au gouvernement. Et les négociations, les discussions doivent continuer pour obtenir non seulement la libération du FACA, qui est actuellement détenu par les 3R, mais pour obtenir également qu'il n'y ait pas de retour en arrière par rapport au processus électoral. Donc il a remis un cahier de revendications. L'Assemblée nationale également est destinataire. C'est pas secret, je veux dire.
Merci.
Donc les débats continuent entre les garants, le gouvernement et Sidiki. Donc nous, en tant que parlementaires, notre travail c'est de veiller à ce que, en respectant l'État, en respectant le cadre de l'accord, en respectant les prérogatives des uns et des autres, que nous arrivions à la libération de notre troisième compatriote qui est entre les mains de Sidiki et arriver également à non seulement à le bon aboutissement du processus électoral, mais de revenir à une situation de sécurité pour toutes les populations,
Parce que c'est ça l'objectif final.
Merci beaucoup, M. Martin Ziguele. M. Mapenzi, vous écoutez ce qu'a expliqué M. Ziguele ici. Mais au regard de toute cette situation, pourquoi le policier n'a pas été promis et son auxiliaire, lui, pas intégré dans la fonction publique?
Nous nous félicitons déjà de leur libération. Et le reste, ça va suivre. Il ne faut pas forcer la main, ça va suivre. Ne soyez pas pressés. Maintenant, je veux dire une chose. Si la mission était un succès, oui. Et si un succès, le mérite revient à qui? À celui qui a donné l'ordre, c'est-à-dire au gouvernement. Et deuxièmement,
non, ça veut dire que le gouvernement a négocié. C'est le contraire de ce qu'a dit le premier ministre.
Non,
il disait que ce n'est pas le gouvernement.
La mission est allée parce que le gouvernement a donné l'ordre. Maintenant, l'objectif, c'est quoi? C'est que les enrôlements se reprennent. Les enrôlements ont repris. Ensuite, désigner Martin Ziguele, ce n'était pas un piège politique. On a demandé à l'Assemblée de se joindre à cette mission et le président de l'Assemblée m'a demandé à moi de rentrer en contact avec les députés de la région, Nana Mambéré et Wampende, d'aller, s'ils sont disposés, aller à cette mission.
Et c'est seulement Ziguele qui a été...
Non, c'est pas Ziguele, ils sont 4 députés. On a seulement vu Ziguele. Donc, c'était pas un piège.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour gagner du temps, vous avez fini votre temps. Oui, monsieur.
Vous donnez le temps de parole.
Non. Allez-y.
Voudrais ici qu'on reconnaisse le mérite que font les étrangers, les garants, les facilitateurs, les partenaires qui nous aident parce que dans le budget, monsieur Binoumi, ancien ministre, le sait, dans le budget de la RCA, combien la RCA contribue, combien les partenaires contribuent. Et donc, je ne voudrais pas ici qu'on traite nos amis qui nous aide dans cette situation difficile.
Merci beaucoup, monsieur Mapenzi. Monsieur Joseph Bindoungou, vous avez 30 secondes parce qu'on tend vers la fin.
Je prends 20 secondes.
Allez-y.
Je prends 20 secondes pour dire, puisque Sidique nous écoute, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme que je suis, je lui donne une semaine pour qu'il libère le militaire centrafricain qu'il a entre les mains. Parce qu'il a signé un accord, il n'a pas le droit de faire des actes d'hostilité et de prendre des militaires en otage. Je lui donne une semaine.
Et sinon ?
Après une semaine, qu'il s'expose à ce qu'un jour à l'autre, il se trouvera devant la Cour pénale internationale.
Merci beaucoup. Monsieur Mouamar Bengueboussin, 30 secondes pour qu'on boucle cette partie.
Je veux dire deux choses.
Oui.
La première, c'est que mon frère qui est en face de moi, l'honorable Mapenzi, n'importe qui, c'est quand même le premier vice-président de l'Assemblée nationale et l'un des ténors du parti présidentiel. Il a reconnu que Sidiki et Abba sont des bandits. Et voilà le gouvernement Touadéra qui accepte d'aller à Khartoum pour signer avec des bandits. Les gouvernements, il avait dit les rébellions c'est partout dans le monde. Les gouvernements partout dans le monde, on connaît un peu l'histoire des relations internationales, les gouvernements signent des accords, des traités entre eux, des accords, des traités. Ils peuvent signer éventuellement un accord avec une rébellion, c'est-à-dire avec des compatriotes qui sont des politiques et qui ne sont pas d'accord avec l'idéologie et la politique du gouvernement et qui ont pris les armes pour instaurer un autre ordre. Ce n'est pas le cas. Mais imaginez un seul exemple. Là, c'est des bandits. Mais si c'était un État étranger qui attaquait la RCA, que serait capable de faire ce gouvernement qui n'est pas capable de neutraliser des bandits?
Merci beaucoup.
Et je terminerai.
Oui, je vous en prie.
Deux secondes pour vous dire que, quel que soit le nombre d'années que le président Touadéra pourrait passer à la tête de ce pays, il n'a pas la culture de l'État. Il ne s'est jamais battu en politique pour une noble cause. Il ne résoudra jamais les problèmes centrafricains, notamment ce problème de défense et de sécurité.
5 secondes, monsieur Mapenzi. Vous voulez répondre, je vois.
Parce qu'on m'avait parlé de l'Afrique sud et de l'Angola.
Je voulais demander à mon frère Bengueboussin de revoir l'histoire des crises politiques. Je vous l'ai dit, dans toutes les crises, il y a des négociations, secrètes ou pas. Et donc, nous devrions...
Merci beaucoup, je vous en prie. Est-ce qu'on peut gagner du temps? Merci, et c'est la fin de ce débat politique cette semaine. Nous avions débattu de la libération des deux policiers pris en otage durant un mois par le chef rebelle Sidiki Abbas dans Lwampende. Monsieur Martin Ziguele, député et président du mouvement de libération du peuple centrafricain, MLPC, allié de Faucin Kantouadira. Monsieur, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci et travaillons tous pour la libération du troisième otage centrafricain.
Omar Bengueboussin, conseiller en communication et porte-parole de l'ancien chef de l'État François Bozizé. Monsieur, merci d'être venu
c'est moi qui vous remercie.
Monsieur Jean-Saint Fouré Mapenzi, premier vice-président de l'Assemblée nationale et cadre du mouvement Cœur Uni du président Touadéra. Monsieur, merci aussi à vous.
Merci, et le peuple est témoin de tout ce que nous faisons pour son bien.
Et Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, membre de la société civile. Messieurs, merci aussi à vous.
Je vous dis merci. Je demande à Sidiki de libérer immédiatement le militaire qui est entre ses mains.
Au micro, c'était donc Armando Yangindi. La mise en onde était assurée par Gabriel Trésorier Nemati. Bon week-end à toutes et à tous. Portez-vous bien et à la prochaine.